France Info.
Bonsoir à tous. Une banque publique ce soir dans l'Interview Écho, la banque publique d'investissement BPI France. Bonsoir Nicolas Dufourcq.
Bonsoir.
Directeur général de BPI France. Le patron du groupe parapétrolier Technip FMC, Monsieur Pilenko, va partir avec 15 millions d'euros alors que son groupe a perdu plus d'1,6 milliard l'année dernière. Vous êtes actionnaire BPI France de Technip FMC. Pourquoi le laissez-vous faire ?
Bon, on ne laisse pas faire, on a voté contre en Assemblée Générale. On a 5% du capital de Technip. Bon, ensuite, c'est toujours pareil dans ces affaires-là, c'est-à-dire qu'on est obligé de rentrer un peu dans le détail pour expliquer la réalité des choses. Sur les 15 millions qui sont une somme gigantesque, il y a une dizaine de millions qui sont liés à des salaires relatifs à des années passées qu'il a travaillé dans l'entreprise et qui faisait partie du contrat entre l'entreprise et ce manager, d'accord ? Salaires qu'on peut considérer comme trop élevés, mais qui ont été validés par les assemblées générales successives. Sauf la dernière, qui l'a validée, mais à laquelle nous avons voté, nous, non. Voilà. Parce que nous considérions que c'était trop élevé. Ensuite s'ajoute à ça un package de départ. Et c'est là que, effectivement, malheureusement, j'ai envie de dire, on passe les bornes. C'est-à-dire que quand on est aussi bien payé, on n'a pas besoin d'un package de départ. Moi, je me souviens dans l'entreprise...
10 millions, ça passe, 15 millions, ça passe pas, c'est ça, Nicolas Dufourcq ?
Bah, 10 millions, si vous voulez, quand c'est sur 4 ans, vous divisez par 4, et vous arrivez aux rémunérations des patrons du CAC 40. Ce sont des rémunérations qui sont évidemment extraordinairement élevées, comme la plupart des gens qui sont à très, 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 très haut niveau dans leur carrière professionnelle, y compris dans le sport. Ça peut être contesté, ça peut être contestable, mais au fond, on est dans le marché. Quand on rajoute à ça des indemnités de départ très importantes, qui ne passent pas en conseil d'administration, donc qui ne sont pas soumises à nos représentants, nous, BPI France, hein, et qui ne passe pas non plus en Assemblée Générale, donc on ne les connaît pas. Ça fait partie des choses que nous avons nous-mêmes découvertes. Il y a de quoi, en effet, se dire que on est hors norme. Dans l'entreprise dans laquelle je travaillais auparavant, il y a 6 ans, Capgemini, on avait refusé les parachutes dorés. On ne les pratiquait plus depuis de très nombreuses années. Moi, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de parachute dorée pour les grands chefs d'entreprise.
Qu'allez-vous faire, là, dans cette affaire ?
Ah bah, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Cette entreprise, elle est de droit anglais, avec un siège social qui est à Londres. Elle est cotée aux États-Unis l'ensemble, encore une fois, des décisions qui ont été prises. Rien n'est illégal. Tout a été validé par les assemblées générales. Donc la seule magistrature que nous ayons, c'est une magistrature d'influence. Parfois, dans les conseils d'administration dans lesquels nous sommes entendus, écoutés, etc. Au cas particulier de Technip, avec un conseil qui est en majorité américain, ça n'a pas été possible.
Mais si vous êtes impuissant, pourquoi rester actionnaire de ce groupe parapétrolier, si vous ne pouvez pas intervenir ?
Parce qu'on ne peut pas intervenir sur tout, mais on est quand même garant d'une forme d'ancrage de cette magnifique entreprise historique de la filière pétrolière française en France. Une partie significative des lieux de pouvoir de Technip FMC est encore la défense. La grande division, qui est la division d'ailleurs qui a été achetée aux Américains, qui s'appelle le Subsea, hein, tout ce qui est sous-marin, est dirigée par un Français. La recherche, elle est toujours française. La direction des ressources humaines, elle est française. Ce qui était essentiellement américain, c'est la direction financière où se préparent toutes ces décisions, et celle-ci, elle est à Houston. Donc notre influence, elle est absolument réelle. En revanche, sur les packages de rémunération, en droit anglais, au cas particulier, hein, nous n'y sommes pas parvenus.
On parle plus largement de l'industrie française ce soir, puisqu'on voit beaucoup d'usines en difficulté en ce moment, et vous continuez à y croire, vous lancez des initiatives de soutien à l'industrie, et vous voulez faire des ponts, dresser des ponts entre l'Allemagne et la France.
Oui.
Nicolas Dufourcq, qu'est-ce qui vous intéresse là ?
Non, d'abord, nous, évidemment, on sait très bien contempler le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Et on préfère le verre à moitié plein. Il y a plus d'usines qui ouvrent en France que d'usines qui ferment. Il y aura toujours des usines qui fermeront. En 2045, vous aurez encore une actualité
sur
des
usines
qui
fermeront. Mais là, on n'est pas en 2045, on est en 2019, on voit des usines en difficulté.
Oui, mais vous en avez toujours eu. Voilà. Mais vous avez plus d'usines qui ouvrent que d'usines qui ferment. Pas énormément plus, une vingtaine, une trentaine de plus. Notre objectif à nous, c'est que le mouvement s'emballe. Et ce mouvement, c'est la renaissance de l'industrie française. Qui prend la forme d'une emblème, qui est la French Fab avec ce coq bleu. Et qui est porté par une révolution technologique qui est l'industrie du futur, l'industrie 4.0.
Pourquoi ce lien avec l'Allemagne que vous voulez
Alors
établir
ça, c'est,
là
c'est, au fond, c'est intéressant, je dirais, mais c'est pas le cœur de notre sujet autour de l'industrie du futur. Je pense, en effet, que les industries allemandes et les industries françaises sont beaucoup, beaucoup trop peu collaboratives et intégrées. Quand vous imaginez
et
que...
Et les Allemands réussissent beaucoup mieux que les Français.
Bah, les Allemands, ils ont une industrie qui est 2,5 fois supérieure à l'industrie française en volume. Donc ils nous ont complètement distancés depuis 30 ans. Les rattraper, d'ailleurs, d'ailleurs n'est pas forcément un objectif. En revanche, refaire de l'industrie française ce qu'elle a pu être, c'est-à-dire quelque chose qui représente de 17-18% du PIB, qui engendre un excédent commercial sur les biens manufacturés, etc., ça va nous prendre 25 ans, 30 ans. Mais il suffit de le savoir. Et ensuite, tous les ans, de manière déterminée, on ne change pas de cap.
J'entends le discours, Nicolas Dufour. Quelle est la recette? Encore une fois, on voit des cas, les uns après les autres, d'usines en difficulté, d'entreprises en difficulté. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Non, mais la recette, c'est de très bons chefs d'entreprise.
On les a pas?
Si, on en a énorme. Je vous dis que on ouvre plus qu'on ne ferme. On crée de l'emploi dans l'industrie française en ce moment. Les marges de l'industrie sont revenues à leur niveau de 2006. L'innovation dans l'industrie, c'est toute l'innovation du futur. L'industrie, il faut pas imaginer des usines avec des ouvriers, il faut imaginer des entreprises avec des techniciens, des opérateurs. C'est absolument, elle est géniale, notre industrie. Alors évidemment, vous avez quelques entreprises qui ne se sont pas modernisées, qui n'ont pas anticipé, qui n'ont pas innové, dont les chefs d'entreprise sont, par parenthèse en effet, partiellement responsables, voire parfois significativement responsable de la situation. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, ça s'appelle la destruction créatrice. Donc on est là pour l'accompagner, mais nous, BPI France, on est surtout là pour financer l'industrie du futur. Surtout là. Et de ce point de vue-là, avoir des investissements allemands en France et des investissements français en Allemagne dans l'industrie, ce que nous allons présenter à Hanovre dans une quinzaine de jours, est un vrai projet à la fois économique et politique.
Le papetier Arjo Wiggins, oui. On va en parler encore la semaine prochaine puisqu'on attend une décision importante. Puis il emploie un millier de personnes dans l'Aisne et dans la Sarthe, menacées de liquidation judiciaire. Que vont devenir ces salariés d'Arjo Wiggins? C'est un dossier que vous connaissez bien, hein, puisque BPI France est actionnaire depuis longtemps de Sequana, maison mère d'Arjo Wiggins.
Oui, c'est un dossier dans lequel BPI France a perdu 180 millions d'euros. 180 millions d'euros, c'est l'équivalent de une année et demie de résultat net de la banque. Donc on peut pas dire qu'on n'a pas accompagné cette entreprise. On a tout fait pour essayer de trouver des solutions, tenir dans la durée, faire confiance au management. Il se trouve qu'on est sur un marché qui est un marché dévasté, le marché du papier. Absolument dévasté, pour une raison très simple, la transition énergétique. On recommande à tout le monde d'arrêter d'utiliser du papier. Hein, donc tout devient digital, le courrier postal s'effondre, on n'imprime plus les annuaires, et donc le marché du papier s'est effondré. Quand vous êtes dans ce secteur-là de l'économie, c'est très très difficile d'en réchapper.
Allez-vous soutenir financièrement la reprise d'Arjo Wiggins, si elle a lieu, si elle est validée
prochaine? En l'occurrence, le dossier Arjo Wiggins, maintenant, il est dans les mains du tribunal de commerce. Donc c'est le tribunal de commerce qui doit trouver des repreneurs. Et le rôle de BPI France n'est pas d'être repreneur. Nous ne sommes jamais majoritaires. Nous sommes toujours minoritaires dans les entreprises.
On aura l'occasion d'y revenir. C'est un dossier parmi d'autres. Merci Nicolas Dufourcq, directeur général de BPI France, invité de l'Interview Éco ce soir.